Le premier terme sur lequel vous êtes appelé à vous prononcer concerne l'Union européenne, ou plus précisément la participation de la Suisse aux accords de Schengen et de Dublin. En mai 2004, après 3 ans d'âpres négociations, la Suisse et l'Union européenne sont tombés d'accord sur un second paquet de 9 accords bilatéraux. Ces bilatéral bis prévoient un rapprochement dans plusieurs domaines, tels que les statistiques, la lutte contre la fraude douanière, l'environnement, les médias et les produits agricoles transformés notamment. Le premier paquet d'accords bilatéraux accepté en votation avait été soumis au peuple suisse en un bloc. Mais pour ce second volet, la situation est différente, puisque les citoyens sont invités à se prononcer uniquement sur l'accord concernant la participation suisse à Schengen-Dublin. Alors Alexandra Richard, vous nous présentez plus en détail ce qui se trouve derrière cette appellation de Schengen.
Oui, Schengen vise à éliminer les obstacles à la libre circulation en Europe en supprimant les contrôles frontaliers systématiques entre les États membres de l'espace Schengen. En contrepartie, la sécurité est renforcée sur les frontières extérieures de l'Union européenne. Pour illustrer le propos, prenons l'exemple de la Belgique, qui n'a pas de frontière extérieure à l'Union. Elle ne procède plus à des contrôles systématiques à sa frontière avec la France, l'Allemagne ou le Luxembourg. Mais elle compte sur un pays comme l'Espagne pour empêcher des criminels ou des clandestins d'entrer dans l'Union, depuis le Maroc par exemple. Tous les contrôles ne sont cependant pas supprimés aux frontières intérieures. Lorsqu'elles soupçonnent des activités criminelles, les autorités françaises peuvent très bien intervenir à la frontière franco-allemande, par exemple, ou même encore plus à l'intérieur du pays, grâce à des patrouilles mobiles. Par ailleurs, les contrôles systématiques peuvent être rétablis à l'occasion d'événements spéciaux. C'est ce qu'avait fait le Portugal lors de l'Eurofoot. Schengen prévoit également un renforcement de la coopération policière transfrontalière. Cela se fait en particulier par l'échange d'informations sur les personnes recherchées ou indésirables, en abrégé SIS. À noter que ce dernier point, véritable clé de voûte du système, est celui qui intéresse le plus la Suisse dans le cadre de l'adhésion à l'espace Schengen. Schengen prévoit aussi une amélioration de la coopération dans le domaine de la justice pénale et une politique commune en matière de visa. Les milieux touristiques suisses sont très intéressés par ces visas communs, car aujourd'hui, certains touristes en visite en Europe, et par conséquent déjà munis d'un visa européen, des Chinois par exemple, ne souhaitent pas faire un visa supplémentaire pour un petit détour par la Suisse.
On a aussi beaucoup entendu parler d'une restriction du commerce des armes dans le cadre de l'espace Schengen. Alors qu'en est-il exactement ?
Schengen prescrit des règles minimales en ce qui concerne l'acquisition et la détention d'armes à feu, l'objectif étant d'en limiter l'utilisation abusive. La législation suisse répond pratiquement aux critères exigés. Certaines adaptations sont toutefois nécessaires. La principale concerne la distinction faite jusqu'ici en Suisse entre l'acquisition d'une arme dans un commerce et entre privés. Désormais, cette distinction sera supprimée. Par ailleurs, les gens qui obtiennent une arme de manière privée, que ce soit par un achat ou un héritage, seront obligés de la déclarer et ils devront démontrer qu'ils ont un motif valable. Mais les collectionneurs, les chasseurs et les sportifs ne seront pas obligés de donner un motif d'achat et ils profiteront même du passeport d'armes européen qui leur permettra de transporter une arme d'un pays de l'espace Schengen à un autre. À remarquer enfin que la déclaration obligatoire prévue par Schengen ne s'applique pas aux armes de service ni à leur acquisition à la fin du service militaire.
Hormis les armes, il y a un autre sujet sensible en Suisse, c'est celui du secret bancaire. Alors celui-ci l'est-il menacé vu que Schengen prévoit justement une entraide judiciaire, notamment en ce qui concerne les délits fiscaux ?
Non, cet aspect a été longuement discuté, mais la Suisse a obtenu gain de cause. Elle ne sera pas obligée de collaborer pour les questions d'évasion fiscale. L'accord conclu avec l'Union prévoit même une dérogation de durée indéterminée pour la Suisse, au cas où l'évolution de l'acquis de Schengen conduirait à une obligation d'accorder l'entraide judiciaire, également pour les délits de soustraction d'impôts directs. De plus, la Suisse a reçu l'assurance que les informations fournies dans le cadre de demandes d'entraide judiciaire ne pourront être utilisées dans d'autres procédures ayant trait à la fiscalité directe.
Voilà donc pour Schengen, Alexandra. Mais qu'en est-il de l'autre volet, celui de Dublin ?
Avec la coopération de Dublin, un réfugié n'a le droit de déposer qu'une seule et unique demande d'asile dans l'Union. Un seul État membre est compétent pour traiter sa requête. S'il est débouté, le requérant ne pourra pas déposer une nouvelle demande dans un autre pays. Et s'il le fait, il est renvoyé dans le pays du premier accueil. Prenons un exemple concret. Un réfugié dépose une demande d'asile en France. Elle est refusée. S'il vient ensuite tenter sa chance en Suisse, les autorités helvétiques refuseront sa requête et le renverront immédiatement en France. France. Comme pour Schengen, le système se fonde sur une base de données. Il s'agit dans ce cas de l'Eurodac, qui recense les empreintes digitales et permet ainsi l'identification des requérants ayant déjà déposé plusieurs demandes.
Si le peuple dit oui le 5 juin prochain, la Suisse participera tant à Schengen qu'à Dublin. Elle ne serait d'ailleurs pas le seul pays non membre de l'Union à y participer, puisque c'est déjà le cas de la Norvège et de l'Islande. Comme ces deux pays, la Suisse n'aura pas un pouvoir de décision formel en ce qui concerne l'évolution de l'acquis de Schengen-Dublin. Elle aura en revanche le droit de participer au débat et d'influencer les décisions. Qui plus est, si l'évolution de cet acquis s'avérait être défavorable, la Suisse ne serait pas obligée d'y souscrire.
Effectivement, pour chaque nouveau développement de Schengen-Dublin, la Suisse disposera de 2 ans pour se prononcer. Ce délai permettra de procéder au débat parlementaire, voire, si nécessaire, à une votation populaire. Si la Suisse devait, pour une raison ou pour une autre, refuser un de ces nouveaux développements, un mécanisme de consultation supplémentaire est prévu au niveau ministériel avec l'Union européenne, le but étant de trouver un terrain d'entente. Si malgré cela, aucun accord n'était trouvé et que la Suisse persistait dans son refus, l'ensemble de l'accord Schengen-Dublin serait alors résilié. C'est ce qu'on appelle la clause guillotine. Mais le Conseil fédéral doute qu'une telle chose ne se produise jamais, tant les intérêts de la Suisse et de l'Union européenne sont convergents.
Convergent peut-être, il n'en reste pas moins que tout le monde en Suisse n'est pas convaincu de l'utilité pour le pays d'adhérer à Schengen-Dublin. C'est ainsi que l'Union démocratique du centre et l'Action pour une Suisse indépendante et neutre ont obtenu le référendum, raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui appelé à vous prononcer. Conseiller national UDC et directeur de l'ASIN, Hans Fehr, nous explique les raisons de son opposition.
Premièrement, n'est-ce pas, le Conseil fédéral. Il veut adhérer la Suisse à l'Union européenne. Et Schengen, c'est un grand pas vers l'adhésion. Deuxièmement, il y aura un problème avec la sécurité. Avec la suppression des contrôles aux frontières, vous gagnez pas, mais vous perdez la sécurité. Et troisièmement, c'est le fait que vous perdez aussi la démocratie directe. Vous pouvez plus décider parce que vous acceptez tout le droit existant de l'Union européenne dans le domaine de Schengen et aussi le droit futur. Et c'est la première fois que la Suisse accepte telle chose.
Mais la voie des bilatérales, l'UDC l'avait demandé après l'échec en 1992 de l'EEE. Donc maintenant, vous venez dire, ces bilatérales, c'est un peu une porte d'entrée détournée vers l'Union. Mais vous l'aviez réclamé à l'époque.
Ah, il faut préciser. Naturellement, nous acceptons et nous voulons le chemin bilatéral. Nous voulons les bilatérales. Mais il faut toujours se demander quelles sont les qualités de ces bilatérales. Et Schengen, c'est contre nos intérêts. Schengen, c'est un pas vers l'adhésion. Et nous voulons aller le chemin bilatéral parce que nous voulons pas l'adhésion. Et pour le Conseil fédéral, Madame Calmiret, elle dit très franchement, lors d'une conférence de presse en 2003, les bilatérales, c'est pour préparer le terrain pour l'Union européenne.
Maintenant, au niveau concret de la sécurité, vous dites que tout le monde pourra franchir un peu la frontière sans contrôle. Mais si on va en vacances, par exemple, en France, en Allemagne, on revient en voiture. Franchement, des contrôles, il n'y en a déjà plus pratiquement. Les chiffres de l'administration fédérale des douanes disent qu'à peu près 3% des gens qui traversent chaque jour la frontière sont contrôlés. Alors, on voit pas vraiment la différence.
Alors, premièrement, la phrase centrale, la prescription centrale du droit Schengen veut dire que les frontières peuvent être franchies par toute personne sans contrôle à chaque endroit. Ça, c'est la Bible de Schengen. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la frontière? Nous avons environ chaque année un nombre de personnes, environ 140 000 qui sont refusés par les gardes frontières ou qui sont rendus à la police. Alors c'est des criminels. Si vous avez plus ce filtre, c'est la libre entrée en Suisse pour ces 140 000 que je veux pas.
Mais en fait, c'est plus de contrôle systématique. Mais on pourra encore faire des contrôles volants quand on a le soupçon d'un crime ou quelque chose comme ça. C'est juste des contrôles systématiques qui ne sont plus faits.
Cette célèbre Schleierfahndung avec des patrouilles mobiles, on parle un peu partout de cela. Mais premièrement, le ministre pour les affaires intérieures de la Bavarie, Monsieur Günther Beckstein, il dit pour avoir à peu près le même effort, la même efficacité avec ces patrouilles mobiles. Il faut à peu près 4 fois plus de gardes frontières et d'agents de police. Ça n'existe pas chez nous, on n'a pas l'argent. 4 fois plus. Et deuxièmement, il faut dire que la Commission de l'Union européenne veut défendre cette Schleierfahndung, alors ces patrouilles mobiles, parce qu'elle dit on ne peut pas faire, à cause du libre passage, on ne peut pas faire un régime spécial dans les environs de la frontière. Si vous voulez davantage de protection, il faut faire dans tout le pays, mais pas dans la région de la frontière. Ça, c'est interdit depuis le droit Schengen. Alors, si vous contrôlez chaque citoyen de la Suisse, si vous dites en chaque moment, on peut te contrôler et tu dois présenter la carte d'identité, ton passeport, ça je veux pas, ce régime je veux pas. Je veux la contrôle à la frontière et liberté dans le pays. Et Schengen, à mon avis, c'est stupide, c'est idiot. Ça fait liberté à la frontière, mais contrôle dans le pays. Et ça va pas.
Schengen, ça veut aussi dire une grande banque de données qui permet de mieux contrôler les activités criminelles. Ça, on peut supposer que c'est quand même un argument en faveur de ce traité. Ça a l'air efficace comme système.
Il faut pas exagérer. Le système d'information Schengen, c'est une banque de données, comme vous dites. Mais attention, si on peut faire l'échange de l'information sur le plan technique, je suis d'accord. Mais le Conseil fédéral, il veut pas. Il veut s'attacher à ce système. Il veut s'attacher à l'Union européenne via Schengen. Il veut pas accepter. Il veut même pas négocier sur l'échange d'informations avec ce système. Sur le plan technique, je suis pour. Mais le Conseil fédéral, il veut pas.
Un petit mot aussi de Dublin. Dublin, ça pourrait dire moins de réfugiés peut-être en Suisse, parce que ceux qui auraient été refusés en France, en Allemagne, ne pourraient plus faire une deuxième demande ici. Donc, aux yeux du DC, ça devrait être une assez bonne nouvelle, normalement.
Oui, de très bonnes nouvelles. Depuis Monsieur Dice et Madame Calmire, ils disent, mais c'est le miracle, ce système Dublin. Mais écoutez, c'est un conte fait. Dans la théorie, ça marche très bien. C'est peut-être logique. Si quelqu'un entre dans l'espace Schengen, dans le premier pays où il se présente comme demandeur d'asile, il faut faire ce processus, sa procédure. Et s'il est refusé, il continue en Suisse. On peut le refuser dans le premier pays. Mais dans la pratique, c'est pas ça. En ce qui concerne ce Dublin, on constate que ça marche pas, parce que c'est exactement les pays du Sud, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, où il y a un grand nombre de demandeurs d'asile. Ils ne doivent pas reprendre ces gens parce qu'ils ne les mettent pas sur la banque de données. Alors, ils n'existent pas.
Il y a quelque chose de troublant. On trouve des textes de l'UDC qui datent d'il y a 3-4 ans, je crois, où clairement, noir sur blanc, c'est écrit « Nous demandons Schengen et Dublin pour plus de sécurité ». Aujourd'hui, vous êtes contre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui semble être un revirement ?
Non, c'est pas du tout contradictoire, parce que il y a environ 3 ans, on a écrit depuis le secrétariat général qu'on voudrait exactement cet échange de données avec le système d'information Schengen sur le plan technique, mais pas Schengen dans la totalité et pas Dublin dans la totalité. C'est le Conseil fédéral qui est contradictoire dans sa position envers Schengen, parce qu'en 99, lors du message au Parlement pour les bilatérales 1, il a dit on peut même pas négocier sur Schengen parce qu'il y aurait un transfert de souveraineté, ça veut dire des droits des citoyens envers l'Union européenne. Alors c'est une perte de souveraineté. Voilà. Et deuxièmement, on dit toujours il y a des agents de police, il y a les chefs de police qui sont pour Schengen. C'est pas vrai. Parce que j'ai parlé avec beaucoup d'eux et ils disent aussi les gardes frontières, ils sont très très sceptiques contre Schengen, mais ils disent oui, sur le plan technique, on peut accepter ça, mais seulement sur le plan technique, et le reste, la politique, l'attachement à l'Union européenne, nous voulons pas. Ce que je constate quand je parle avec les chefs de police, etc., on a mis une muselière aux autorités, aux grandes autorités, aux chefs de police, etc., aux chefs des gardes frontières. ils ne doivent pas être contre Schengen. Ça, c'est la muselière, parce qu'ils ne peuvent pas, ils doivent être loyaux envers le Conseil fédéral.
Outre l'UDC, l'opposition vient également de l'extrême gauche qui dénonce cet espace Schengen-Dublin hostile aux réfugiés et par trop policiers. Le reste de l'échiquier politique est en revanche favorable à Schengen-Dublin, parmi les partis gouvernementaux notamment, socialistes, démocrates chrétiens et radicaux recommandent d'accepter la participation de la Suisse. Président du Parti radical démocratique, le conseiller national Fulvio Pelli nous explique pourquoi il est important de dire oui à Schengen-Dublin. Il est au micro d'Andrea Tonina.
Je crois que le système Schengen-Dublin, c'est un système de sécurité qui peut donner beaucoup à la Suisse, en particulier grâce à ses banques des données. On aura l'accès direct à des banques des données qui seront servies par tous les pays d'Europe, dont on aura un système d'information beaucoup plus efficient et directement accessible, celui qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est la première raison. Quant au système de Dublin, à l'accord de Dublin, il s'agit d'éviter que la Suisse puisse devenir le deuxième pays pour les requérants d'asile. Le système permet d'exclure d'entrée en matière sur une demande d'asile qui provient de quelqu'un qui a été refusé dans un autre pays européen. C'est un bon système qui nous permet d'épargner aussi de l'argent et d'épargner beaucoup de procédures inutiles.
Les adversaires des accords parlent de frontières ouvertes à la criminalité. Qu'en pensez-vous ?
Ils partent de l'hypothèse que les frontières sont un système de sécurité. Alors, si on regarde la situation en Suisse, on a plus ou moins 600 passages en Suisse pour rentrer avec une voiture, dont seulement 150 ont une surveillance. Les autres sont des petits passages par lesquels tout le monde peut passer. Alors, si un criminel veut rentrer en Suisse aujourd'hui, il n'a pas de difficulté. Et en effet, il y a beaucoup de criminels étrangers qui rentrent en Suisse. Alors, moi, je suis de l'opinion qu'une meilleure lutte, mais moi, pas seulement moi, tous les polices de la Suisse, tous les départements de police de la Suisse, le corps des gardes-frontières et la police fédérale, tout le monde pense que la lutte à la criminalité se fait par des informations. Si on a des bonnes informations, on peut lutter contre les criminels. Si on n'a pas de bonnes informations, on ne peut pas lutter. L'hypothèse de contrôler les gens aux frontières serait magnifique si c'était quelque chose de rationnellement possible. On a 600 000 entrées en Suisse chaque jour. Et on contrôle aujourd'hui, avec le système d'aujourd'hui, 3% de ces gens. Alors une minime partie, c'est pour ça que l'opinion de nos adversaires sont vraiment dépourvues de toute crédibilité.
Troisième question, le problème des tireurs sportifs et des chasseurs.
Il y a des gens qui utilisent les armes non pas pour des gestes de criminalité, mais pour une passion, que ce soit de tirer, de chasser ou bien pour des raisons de collectionnisme. Alors je crois que dans l'adaptation de la loi sur les armes qu'on a fait dans l'examen des accords de Schengen, on a tenu compte de toutes les exigences que ces gens légitimement nous ont posées. Et je crois que si on est arrivé à plus ou moins convaincre tout le monde que le système de Schengen ne sera pas un problème pour les passionnés des armes, je crois qu'il nous est réussi de faire une loi suffisamment précise pour éviter tous inconvénients. Il y a encore des oppositions. Là, évidemment, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus sceptique des autres. Mais on a vu que la majeure partie des organisations se sont déclarées satisfaites.
Oui. Schengen et Dublin se basent sur des grandes banques de données. Est-ce qu'il n'y a pas de problème par rapport à la protection des données personnelles ?
Pour ceux qui regardent la Suisse, rien ne change. Notre loi sur la protection des données reste la même. Elle demande une base légale pour pouvoir recueillir des données. Alors, notre contribution au système de Schengen sera correcte selon notre loi. Évidemment, on ne peut pas contrôler si les autres pays, la Suède ou bien l'Espagne, recueillent des données par des systèmes pas corrects. Tout ça, on ne peut pas le contrôler. Mais pour nous, en Suisse, l'important est d'avoir les informations qui regardent la criminalité. Et normalement, toutes les informations qui regardent la criminalité ne violent pas le droit des gens de protéger leurs données. Ce n'est pas les mêmes gens. Les gens dont on doit faire attention à ne pas indaguer tout le temps, c'est des gens corrects qui ne se préoccupent pas de voler aux autres, de commettre des crimes.
Schengen-Dublin, c'est le premier pas ou le deuxième, troisième pas en direction de l'Union européenne ?
Bon, je ne crois pas qu'on peut tirer ces conclusions, bien que ceux qui sont opposés à ça vous diront qu'on est en train de faire un grand pas vers l'Europe. En effet, on adhère tout simplement à un système intelligent de lutte à la criminalité. Le fait qu'ils viennent de l'Europe, c'est seulement la conséquence du fait que les autres États de l'Europe se sont mis d'accord sur un système. Ce qui veut dire que probablement c'est un bon système, sinon d'autres pays européens aussi auraient refusé d'y adhérer. Et je crois que ce système devient toujours plus grand, ça veut dire que ça marche, qu'il est utile. Ça, le problème de l'adhésion à l'Union européenne reste complètement ouvert aux analyses et aux décisions du futur.
Dernière question. Conséquence d'un non à l'adhésion à Schengen-Dublin.
Bon, il ne faut pas dramatiser les conséquences. Je crois que dans le domaine de l'asile, on perd une très grande occasion de simplifier notre système. Ce serait vraiment dommage. Dans le système de Schengen, on perd une occasion de participer à des systèmes d'information efficients. Mais bon, on aura probablement quelques queues de plus aux frontières quand nos amis allemands ou français ou italiens voudront nous faire quelques petits dégâts, peut-être pour des raisons économiques, mais de très grands inconvénients il n'y aura pas, sauf l'occasion manquée. Et je crois qu'une occasion manquée est toujours une donnée négative.
Voilà donc pour Schengen-Dublin. Mais remarquez que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes appelé à vous prononcer sur les accords bilatéraux. En effet, une votation aura encore lieu sur ce thème cet automne. Il s'agira alors de déterminer si la Suisse doit accepter d'étendre la libre circulation des personnes aux 10 nouveaux pays entrés dans l'Union l'an dernier.